aller dans le message. J'aimerais vous en faire 5 et verset 15. Et on va lire le texte qu'on a pris pour cette série. En fait, on a commencé une série il y a déjà 6 semaines sur comment trouver du sens dans un monde insensé. Et on voit de plus en plus que notre monde est insensé. Et on a vu beaucoup de bonnes choses concernant comment trouver du sens dans ce monde qui est dans la confusion, qui est bouleversé. Et en 2 Corinthiens 5, verset 15, on a vraiment la clé primordiale pour avoir du sens dans un monde insensé. Et on a lu, on va le lire encore ce matin, « Et pourquoi est-il mort pour tous, ça parle de Jésus, pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. » Donc, on a vu que le problème majeur dans le monde aujourd'hui, c'est les... Je suis convaincu que si Adam et Ève auraient pu voir le résultat de leurs actions avant d'avoir mangé le fruit défendu, je suis convaincu qu'ils auraient pensé 2 ou 3 fois avant de manger. S'ils auraient pu voir tout le problème, toute la confusion, toute la peine, toute la mort, toute la souffrance que leurs actions allaient amener, ils auraient pensé peut-être 2 ou 3 fois avant d'avoir cédé à la tentation de manger. N'est-ce pas vrai? Mais le problème, c'est qu'ils ne pensaient pas aux autres à l'époque. Ils pensaient à qui? Ils pensaient à Adam et ils pensaient à Ève. Et ça, c'est l'égoïsme. Et leur action égoïste a amené toutes sortes de confusions. Et chaque meurtre, chaque souffrance, chaque maladie, chaque problème que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui, dans le fond, a été introduit dans le monde grâce à leurs actions. Donc, on peut, c'est pas pour blaster grand-maman et grand-papa Adam et Ève ce matin que je dis cela, mais c'est pour nous ramener à la conscience du fait que ce que nous faisons dans la vie va nous affecter, mais ça va aussi avoir une influence dans notre entourage. N'est-ce pas vrai? Et si on vit pour soi-même une petite vie égoïste, et une vie égoïste est petite, parce qu'on pense à moi, mes choses, mes affaires, là, on ne peut pas avoir l'impact qu'on devrait avoir. Mais si on vit pour Jésus, au lieu de vivre pour soi-même, notre vie n'est plus petite. Notre vie devient grande. Nous pouvons avoir un grand impact sur notre entourage. Nous pouvons influencer beaucoup des gens, ceux qui, dans notre famille propre et aussi dans notre entourage, c'est-à-dire au niveau de nos collègues au travail, au niveau de notre voisinage, au niveau de tous ceux qui vivent dans notre ville, dans notre province, comme notre vision pour cette Église, c'est de faire un impact sur la ville de Drummondville, la province du Québec, la francophonie et au-delà. Si on vit pour soi-même, on ne fera jamais un impact. Mais si on vit pour Jésus, avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous allons faire un grand impact. Vous êtes d'accord? Et c'est merveilleux, parce que, comme on a vu, on a dit que, dans le fond, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est à lui. On a parlé des 4 T. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler quels sont les 4 T? Notre temps, nos talents, notre trésor et notre temple. On a déjà parlé de l'importance de bien gérer notre temps pour le Seigneur, parce que notre temps sur la terre est limité. Si on veut avoir un impact, il faut gérer notre temps comme il faut pour investir notre temps dans les choses éternelles, pour toucher le plus grand nombre que possible. On a parlé la semaine passée de comment gérer nos talents pour le Seigneur. Et on a dit que chacun de vous, vous êtes doué pour le succès. Vous avez un don. Tout le monde dit, j'ai un don. Vous avez quelque chose que seulement vous pouvez faire, et nous avons besoin de vous, et vous avez besoin de nous. On a besoin réciproquement les uns des autres. N'est-ce pas vrai? Et si on veut avoir du sens pour notre vie, il faut utiliser notre temps et nos talents pour le Seigneur et pas juste pour soi-même. Et aujourd'hui, on va voir le 3e T. Quelqu'un peut deviner c'est quoi? C'est dans vos notes. On va voir vraiment l'importance de notre trésor. Parce que notre trésor, et qu'est-ce que nous faisons avec notre trésor, ça c'est vraiment une clé. C'est pas la seule clé, mais c'est une clé primordial pour avoir du succès dans le monde et pour avoir du succès dans la vie chrétienne. on va parler de cela. Et c'est un sujet passionnant, c'est un sujet vraiment encourageant. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dieu vous aime, c'est Dieu qui vous donne du trésor. Et le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que vous ayez beaucoup de trésors dans votre vie. Et il y a des personnes aujourd'hui, les personnes religieuses qui ont l'impression que Dieu veut que ses enfants soient pauvres. Il veut que ses enfants souffrent. Il veut que ses enfants aient juste assez pour payer les factures, juste assez pour rejoindre les deux bouts. Mais ce n'est pas ça qu'on voit dans la parole de Dieu. On voit dans la Bible que le plan de Dieu, c'est que vous ayez toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des besoins aujourd'hui? Moi, j'ai des besoins. Et laisse-moi vous dire, hein, à chaque mois, Hydro-Québec ne me laisse pas oublier que j'ai des besoins. Hein, il m'envoie la facture si je le veux ou même si je ne veux pas. Je n'ai même pas besoin de les appeler pour dire, « Hey, n'oublie pas d'envoyer la facture. Hein. » Vous savez de quoi je parle? Et à chaque semaine, mes enfants ne vont pas me laisser oublier qu'ils vont avoir faim aussi. Avec 5 enfants, laisse-moi vous dire, ça prend 2 bouffes dans la maison, n'est-ce pas? Et j'ai des besoins naturels. Mais merci Seigneur, il pourvoit du trésor pour que je puisse chauffer la maison, nourrir les enfants et prendre soin de tous mes besoins. Mais savez-vous que ce n'est pas juste ça que Dieu veut pour vous. Il veut que vous ayez toujours de quoi satisfaire vos besoins, mais Dieu veut, c'est sa volonté, c'est son plan, que vous ayez un superflu. Hein? Il veut que vous ayez un excès. Il veut que vous ayez plus. Pourquoi? Pour participer à toute bonne œuvre. Encore, on parle de l'ensemble de notre vie chrétienne. On ne parle pas juste des finances, on ne parle pas juste du temps, on ne parle pas juste du talent, mais on parle de l'ensemble d'une vie qui a du sens. Et une vie qui a du sens, c'est une vie qui est vécue pour Jésus et pas pour soi-même. Et si c'est vrai avec notre temps, si c'est vrai avec notre talent, c'est aussi vrai avec notre trésor. Quelqu'un qui veut être épanoui, qui veut être heureux dans la vie, c'est une personne qui sait utiliser ses trésors pour pourvoir ses besoins, mais c'est beaucoup plus grand que sa petite vie égoïste. Hein? Il a une vision et une passion pour utiliser son trésor pour aider les autres aussi. Amen? Est-ce que j'ai dit que tout le monde ici va être un millionnaire un jour? Non, je n'ai pas dit cela. Il y a différents niveaux de prospérité même dans la famille de Dieu. Il y a quelques-uns que c'est vraiment le plan de Dieu qui devient millionnaire pour pouvoir aider beaucoup de gens. Mais c'est quand même son plan pour tout le monde ici d'avoir un bon niveau de prospérité, c'est-à-dire tous vos besoins sont rencontrés et vous avez assez pour aider les autres dans votre entourage. Amen? Ça, c'est son plan. Et il faut accepter cela et c'est merveilleux. Donc, on va parler de cela un petit peu ce matin et ça devrait être un message extrêmement encourageant parce que s'il y a une chose qui fait et qui cause la stress aujourd'hui, c'est les problèmes dans les finances. N'est-ce pas vrai? Combien des mariages sont stressés ou même rupturés parce qu'il y a des problèmes au niveau des finances? Dans les commerces, dans toutes sortes de domaines dans la vie aujourd'hui, il y a beaucoup de stress, de problèmes, des personnes qui sont slaquées, qui ont perdu leurs emplois. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes financiers. Mais je suis convaincu que si on peut appliquer les principes de la Bible, qu'on peut régler ces problèmes financiers. Hein? Autant pour les commerces, pour les villes, que pour les individus. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va voir que notre trésor, c'est une clé de la réussite. Donc, 3 choses juste pour commencer, hein, pour bien préparer notre cœur aujourd'hui. On va répondre à une question. Parce que souvent, c'est une question qui est posée. Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il tellement à nos trésors? Hein, parce qu'il y a des gens, combien de vous avez eu l'impression qu'il y a comme 2 catégories de choses? Dieu, il est en esprit et il s'intéresse seulement aux choses de l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe au niveau de nos finances. Moi, j'ai eu cette idée dans le passé, mais ce n'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne. En fait, si on peut regarder dans tout ce que Jésus a enseigné, presque 2/3 de ses paraboles adressent les choses concernant les finances et la gérance des finances. On ne voit pas ça des fois parce que nous sommes habitués à regarder, et quand on pense finances, on pense dollars, on pense cents, on pense solde de compte, Mais n'oubliez pas que quand la Bible parle des récoltes du blé, des moutons, des brebis, des bœufs, les choses de même, et quand Dieu demande à des personnes de faire certaines choses avec le produit de la terre, pour eux autres, c'était leur argent à l'époque, n'est-ce pas? Donc, il faut regarder la Bible dans cette façon et dire, écoute, Dieu, il s'intéresse à notre prospérité. Il veut que nous soyons prospères. Et on voit beaucoup, beaucoup. Il y a tellement, moi, j'ai pas les chiffres devant moi, mais il y a des centaines et même des milliers de références dans la Bible qui fait référence à notre prospérité et à qu'est-ce que nous faisons avec notre argent. Et c'est pourquoi c'est important d'étudier. Pourquoi est-ce que Dieu s'intéresse à nos trésors? Trois raisons. Première raison pour laquelle Dieu parle tellement dans la Bible de notre trésor et des finances, c'est parce que ce que je fais avec mon trésor révèle l'état de mon cœur. Dans le fond, Dieu s'intéresse à mon trésor parce qu'il s'intéresse à mon cœur. Tout le monde dit Dieu s'intéresse à mon cœur. Et quand on vient à Jésus, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'on lui donne notre vie entière, n'est-ce pas? Notre âme, notre cœur, notre esprit, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons été achetés par Jésus. Jésus a versé son sang pour nous acheter, n'est-ce pas? Et il nous a achetés et on est supposé de lui confier toute notre vie. Mais le problème, c'est que souvent, on va lui confier une partie de notre vie et on va garder une partie en réserve pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dire, « OK, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur, comme Sauveur, comme Maître, mais ils ne sont pas prêts à donner leur temps pour le Seigneur. » Est-ce que j'ai raison? Il y a d'autres personnes qui sont prêts à donner le temps, mais ils ne sont pas prêts à donner leur talent pour le Seigneur. Il y a d'autres qui vont donner leur vie au Seigneur, mais ils veulent réserver le temple, le cœur pour eux-mêmes. Ils veulent faire qu'est-ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et on va parler de ça la semaine prochaine. Mais il y a aussi une partie des gens qui ils vont dire, « OK, Seigneur, tu peux avoir ma vie, mais mon trésor, c'est à moi. Touche pas à mon portefeuille. » Hein? Et est-ce que vous pouvez sourire un petit peu ce matin? Merci. Hein? On devrait, laisse-moi vous dire, le message ce matin est extrêmement positif. C'est vraiment, on parle de l'ensemble de la vie chrétienne. Dieu veut qu'on soit consacré à lui avec notre temps, avec nos talents, avec notre trésor et avec notre temple. Donc, ça fait partie de tout l'ensemble, OK? Mais Dieu, il s'intéresse à notre trésor parce que, selon Matthieu chapitre 6, verset 19, c'est dans vos notes, Jésus a dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la taine ou la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la taine et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Amen. Combien de vous êtes convaincus que Dieu s'intéresse à votre cœur? Donc, voici l'indication que la parole de Dieu dit, « Là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Point final. Et c'est pourquoi Dieu veut savoir, et c'est important pour lui, qu'est-ce que nous faisons avec notre trésor. Et en fait, toi, tu pourrais regarder mon chéquier, par exemple, ou je pourrais regarder votre chéquier, ou on peut regarder le registre de n'importe quelle personne, et on peut voir les choses que la personne aime, et on peut vraiment trouver son cœur juste en voyant où il dépense son argent et comment il dépense son argent. N'est-ce pas vrai? Donc encore, je veux vraiment que vous sachiez, ça c'est la Bible, c'est pas Pasteur Ken qui dit ces choses, c'est Jésus qui enseigne ces choses. Amen? C'est Jésus. Et Dieu dit que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc plus on investit pour les choses de Dieu, plus notre cœur va être dans les choses de Dieu. Amen? C'est de fun, en fait. En fait, moi, si je vois que mon cœur n'est pas vraiment là où il devrait être, il y a des choses que je peux faire. Une personne, par exemple, qui n'a pas vraiment une passion pour les missions mondiales ou pour les enfants diminués, les enfants qui n'ont rien à Noël, laisse-moi te dire une chose. C'est impossible pour toi d'aller au magasin, d'acheter des jouets pour les enfants qui sont dans le besoin, d'emballer le paquet et d'envoyer ça en outre-mer sans que ton cœur suive le paquet. Amen? N'est-ce pas vrai? Laisse-moi te dire une chose. Plus tu investis dans la vie d'une personne, plus ton cœur est attaché à la personne. C'est pourquoi j'étais tellement content. On a envoyé 18 paquets en Outre-mer pour aider les enfants à diminuer. Et laisse-moi vous dire, c'est-à-dire que de plus en plus, notre cœur grandit. Quand on a reçu une offrande pour les Indiens en Labrador, qui n'ont pas de manteau, qui n'ont pas de souliers, etc., j'ai vu votre cœur répondre. On a ramassé dans une semaine 500 $ pour pouvoir revêtir les enfants qui souffrent vraiment par le froid et ils ont toutes sortes de problèmes là-bas. Mais je vois que le cœur de cette église aime les enfants, n'est-ce pas vrai? Et ça se voit comment? Parce qu'on voit que vous avez investi votre trésor dans les enfants. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut voir où est ton cœur. Une personne qui dépense tout son argent pour les sports ou pour les autos ou pour les choses de même, on voit qu'il aime les autos, il aime les sports. Une personne qui investit pour autre chose, on voit où est son cœur parce qu'on voit où va son trésor. Amen? Important. Et c'est pourquoi, en fait, Dieu nous donne les exhortations car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. La Bible dit que l'amour de l'argent, ce n'est pas l'argent. Il y a des gens qui ont mal cité ce verset en disant « l'argent est la racine de tous les maux ». Ce n'est pas ça. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Dieu ne veut pas que tu aimes l'argent plus que tu l'aimes. Amen? Et c'est pourquoi Jésus est tellement clair et il veut tellement que nous soyons libérés dans nos finances, que nous soyons prêts à donner avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Pourquoi? Parce qu'il voit que son cœur est attaché à Dieu et aux choses célestes plus que d'être attaché aux choses terrestres. N'est-ce pas vrai? Donc, combien c'est important que nous servons et que nous vivons pour Jésus, pas juste en parole, mais que nous vivons pour lui avec notre trésor aussi. Et laisse-moi vous dire une chose. Plus on donne pour le royaume de Dieu et plus notre trésor est consacré, moins nous aurons un problème avec l'amour d'argent. Et Dieu veut nous protéger de cet amour d'argent. Deuxième raison pour laquelle Dieu s'intéresse à ce que nous faisons avec notre trésor, c'est que Dieu regarde la gestion de mon trésor pour déterminer si je suis digne de confiance. Et il y a des gens, des fois, si vous n'avez jamais entendu cela, vous allez trouver ça drôle. Parce que l'argent, c'est pas la chose la plus importante du monde. Est-ce que vous êtes d'accord? Et il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus importantes que l'argent. Exactement, précisément. C'est exactement ce que Jésus dit dans ce verset. Regardons Luc chapitre 16, verset 10, dans la parole vivante. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, tout le monde dit petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais si quelqu'un n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui voudrait vous confier les véritables? Donc on voit deux termes que Jésus utilise pour décrire l'argent. Il dit les petites choses et il appelle ça les richesses injustes. OK? Donc, dans le fond, Jésus est en train de dire que l'argent, c'est le moindre de choses ici sur la terre. N'est-ce pas vrai? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est le moindre de choses. Il y a deux choses qui sont beaucoup plus importantes, comme par exemple les ministères de compassion, comme les ministères de guérison, comme les dons de l'esprit, la capacité de prophétiser et d'aider les autres. Ces choses sont infiniment plus importantes que les dollars et les cents. Vous êtes d'accord? Mais Jésus dit ceci. Si une personne n'est pas fidèle dans les plus petites des choses, dans le moindre des choses, qui est l'argent, cette personne ne sera pas digne de confiance pour les choses qui sont plus importantes. Est-ce que vous voyez? Et c'est encore pourquoi, si vous n'aimez pas ça, désolé, mais je prêche la Bible ce matin. Et c'est juste la parole de Dieu, c'est Jésus. J'utilise les paroles de Jésus-Christ. Combien de vous, vous croyez qu'il dit la vérité? C'est Jésus qui a dit, une personne qui n'est pas fidèle dans les richesses injustes, qui va vouloir lui confier les véritables richesses? C'est Jésus, OK? Donc, on voit l'importance que Dieu va nous examiner. En fait, souvent, il va nous envoyer les tests. Il nous envoie du trésor naturel, parce que ça, c'est assez sécuritaire pour lui. Hein? Il peut faire un test avec l'argent, parce que si on fait des gaffes avec l'argent, c'est de valeur, c'est malheureux. On va souffrir, il y a quelques-uns qui vont souffrir, mais c'est beaucoup moins grave que si on fait un gaffe avec les dons de l'esprit, ou avec un ministère, ou avec quelque chose qui est vraiment sérieux et vraiment important. Vous êtes d'accord? Donc souvent, il va nous envoyer un test, et puis il nous confie des richesses injustes, et il va voir, est-ce qu'il est fidèle dans la gestion de ces richesses injustes? Et s'il voit que oui, il va nous essayer avec, il va nous confier plus. Et il va nous confier des choses qui sont des vraies choses. Amen? Donc encore, c'est important de réaliser. Ce que je fais avec mon trésor révèle l'état de mon cœur, et Dieu regarde la gestion de mon trésor pour déterminer si je suis digne de confiance. Et la troisième raison pour laquelle Dieu s'intéresse à notre trésor, bien entendu, on a déjà dit, il veut pourvoir nos besoins parce qu'il est un bon papa. Il veut que nous ayons de quoi satisfaire nos besoins, et il veut que nous ayons une vie qui est quand même confortable. Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Combien de vous êtes des parents? Aimerez-vous mieux voir vos parents vivre dans la pauvreté ou dans la prospérité? Hein? La prospérité. Et nous sommes les parents imparfaits. Nous sommes, comme la Bible dit, nous sommes les parents injustes, même des fois méchants. Et si nous, étant les parents méchants, selon les paroles de Jésus, des bonnes choses à nos enfants, à combien plus fort raison notre Père céleste donnera-t-il toutes les bonnes choses dont nous avons besoin? Notre Père céleste est infiniment mieux et plus grand et miséricordieux que nous. Mais, troisième raison pour laquelle Dieu s'intéresse à notre trésor, c'est parce que Dieu veut que j'utilise mon trésor pour bâtir son royaume. Tout le monde dit bâtir son royaume. Amen. Et on vit pour Jésus, n'est-ce pas? On ne vit pas pour soi-même. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, lui appartient. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut les enfants de Dieu qui sont consacrés avec leur temps, leur talent et leur trésor. C'est-à-dire que s'il a besoin de notre temps, on dit oui, Seigneur, c'est à toi. S'il a besoin de nos talents, on dit oui, Seigneur. S'il a besoin de notre trésor, on dit oui, Seigneur, c'est à toi. On est les économes. Tout le monde dit, je suis économe. C'est-à-dire, nous sommes les administrateurs ou les gérants. Les choses que Dieu nous confie ne nous appartiennent pas tout seul. Ces choses, dans le fond, appartiennent à Dieu. Et c'est cette révélation qui change notre façon de vivre et qui nous délivre d'une petite vie égoïste et nous amène à vivre une vie abondante qui porte beaucoup de fruits dans notre entourage. Il y a un verset qui est un passage, même pas un verset, mais un passage en Agé chapitre 1, dans l'Ancien Testament. Je vous encourage d'y aller ou de regarder dans vos notes. Et c'est un verset très fort, très puissant. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens ici que vous allez vraiment comprendre et pouvoir compatir à la situation que les enfants de Dieu vivaient ici à l'époque. Qu'est-ce qui se passe, juste pour vous donner le contexte de ce verset, c'est que les enfants de Dieu sont, après avoir été prisonniers et captifs pendant des années, finalement, ils ont eu le droit de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple de Dieu. Le temple de Dieu a été détruit et Dieu a envoyé ces personnes pour reconstruire le temple. Le problème, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont été découragés rapidement et à peu près 14 ans plus tard, le temple n'est toujours pas construit. Et en fait, les gens ont comme perdu intérêt pour bâtir le temple et ils se sont intéressés à leurs propres affaires, leur petite vie égoïste. Et ils sont dans cet état d'égoïsme, ils pensent à leurs affaires, leur maison, et le temple de Dieu n'est toujours pas construit. Ça, c'est le contexte de ce verset. Mais regardons bien qu'est-ce que Dieu dit à travers le prophète. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Tout le monde dit un sac percé. Donc, est-ce que vous voyez l'image? Voici un peuple, ils travaillent fort, ils vont au travail, ils vont ramasser les salaires, mais le salaire est mis dans un sac troué, percé. Qu'est-ce qui arrive avec un sac percé? Hein? Et ça se peut que nous, on a tous vécu des moments où c'est comme on avait des sacs percés. On dit, oh, mais j'ai juste besoin d'une augmentation de salaire. J'ai besoin de plus d'argent pour pouvoir réussir. J'ai besoin de plus. Mais le problème, c'est que on peut mettre 5 sous dans un sac percé et le sac va être vide. Après, vous êtes d'accord? On peut mettre 5 millions de sous dedans et le sac va toujours se vider parce que c'est troué. Il y a un trou dans le fond du sac et peu importe combien on met dedans, on va tout perdre quand même. Vous êtes d'accord? Et c'est ça vraiment l'image de l'état financier de beaucoup des gens dans ce monde insensé. Ils ne trouvent pas de sens pour leurs finances parce qu'ils travaillent fort, ils vont travailler 2, 3 jobs même, ils vont faire tout pour faire rentrer plus d'argent, mais c'est comme ils ne réussissent quand même pas. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Ah! Donc là, on va voir la solution. Combien de vous aimez les solutions, pas juste les problèmes? Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, c'est-à-dire votre façon de vivre. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Tout le monde dit bâtissez la maison. Mm-hmm. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous, vous empressez chacun pour sa maison. Soulignez ma maison et soulignez sa maison. Est-ce que Dieu s'intéresse à ta maison? Oui! Il veut que votre maison soit remplie, il veut que vous soyez dans l'abondance. Mais le problème, c'est une question souvent de priorité. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on utilise notre trésor tout d'abord et en premier lieu pour bâtir sa maison. Et si on bâtit sa maison d'abord, tout le monde est d'abord, si on bâtit sa maison d'abord, on va toujours avoir de quoi satisfaire aux besoins de notre maison. On bâtit sa maison, et puis je peux bâtir ma maison. Ce n'est pas vice-versa. Sinon, c'est une question de priorité. On vit pour Jésus. Encore, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et qui est ressuscité. Ça, c'est la volonté de Dieu, et c'est le plan de Dieu. Donc, on va continuer. À cause de ma maison, tandis que vous, vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'une personne qui vit pour soi-même et qui travaille fort et qui fait toutes les choses dans le naturel qui sont nécessaires pour réussir, pour abonder et pour avoir de la prospérité. Une personne qui fait toutes ces choses, mais qui ne bâtit pas la maison de Dieu en première place, cette personne n'est pas bénie. Mais une personne qui travaille, qui fait toutes ces choses et qui bâtit d'abord le royaume de Dieu, cherchez d'abord. Qu'est-ce que Jésus a dit à Matthieu 6? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est un principe que si on cherche d'abord, en première place, le royaume de Dieu, Dieu prend soin de nous. Je m'occupe des affaires de mon Père et mon Père s'occupe de mes affaires. Amen. Alléluia. Je sais que vous êtes en train de réfléchir comme il faut ce matin, oui? 3 choses que je vais vous donner pour bien gérer nos finances pour le succès. Comment gérer votre trésor pour le succès? On voit vraiment que Dieu s'intéresse à nos finances. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse à notre cœur. Parce qu'il veut savoir si nous sommes dignes de confiance et parce qu'il veut bâtir son royaume. Et c'est vrai, n'est-ce pas, qu'il veut bâtir son royaume. Et on dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les finances? Ça a beaucoup à voir parce que l'Évangile de Jésus-Christ est gratuit. Combien de vous êtes d'accord? Le salut est gratuit, l'Évangile est gratuit. Mais, malheureusement, on ne peut pas se présenter chez l'imprimerie pour dire on a besoin d'imprimer tant de traités d'évangélisation ou tant de Bibles. Et on aimerait avoir cela pour la semaine prochaine. Et n'envoie pas de facture parce que c'est pour le royaume de Dieu. Ils vont dire non, on va le faire pour la semaine prochaine, mais tu vas faire ton chèque au nom de. C'est vrai, n'est-ce pas? Même chose ici. Malheureusement, on ne peut pas dire à Gaz Métropolitaine, tu sais, on est une église ici, donc envoie pas de facture pour le gaz. Ils envoient quand même. Et ça prend des sous. C'est comme on dit, l'eau est gratuite, mais ça prend un peu d'argent pour installer les tuyaux, pour le pomper au monde. Amen? Et c'est la même chose. Le monde a besoin de Jésus. Et si on va atteindre les nations avec le message de Jésus-Christ, si on va aider les enfants qui sont diminués, ça prend des sous pour acheter des cadeaux et pour envoyer les cadeaux, n'est-ce pas? Ça prend des sous. Et Dieu dit, il faut bâtir sa maison d'abord et ensuite on va bâtir notre maison. Trois choses juste très pratiques que je veux vous donner comme conseil pour bien gérer vos finances pour le succès. Combien de vous, vous voulez gérer votre trésor pour le succès? Amen. Pour être vraiment un bon économe de Dieu. Première chose, c'est bien facile. Numéro un, donnez à Dieu la première place dans vos finances. Donnez à Dieu la première place. Tout le monde dit la première place. Et ça, c'est un principe qui marche. Je le sais. Parce que ça fait des années et des années que je mets ce principe en pratique et ça marche. Quand j'étais adolescent dans le Seigneur, en couple des fois, j'ai essayé d'inverser et de changer de l'ordre des choses dans ma vie. J'ai essayé de payer mes propres choses d'abord et ensuite d'honorer le Seigneur. Et qu'est-ce que j'ai découvert, c'est qu'il ne restait jamais assez pour le Seigneur après. Combien de vous savez de quoi je parle, hein? Mais il y a un principe dans la Bible qui dit, en Proverbes 3, versets 9 et 10, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices, comment on dit les prémices, et avec les prémices de tout ton revenu. » OK? Ce n'est pas ce qui reste de tes revenus, mais les prémices de tout ton revenu. « Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Donc, on voit l'image de quelqu'un qui est béni au bout, qui a plus qu'assez, n'est-ce pas? Mais le problème, la plupart des chrétiens, ils ont cette idée que si je donne au Seigneur d'abord qu'est-ce qui lui appartient, je vais en manquer. Je ne vais pas avoir assez pour acheter l'épicerie, pour payer les factures, etc. Si je donne au Seigneur qu'est-ce qu'il me demande de faire, je vais manquer. Mais selon ce verset, c'est l'inverse, n'est-ce pas? Selon ce verset, si tu donnes à Dieu en première place, avant de faire quoi que ce soit, je redonne à Dieu qu'est-ce qui lui appartient. Là, la Bible dit que tu vas avoir une abondance et un superflu. C'est un principe de la Bible. Et c'est un principe qui marche. Et combien de personnes que je connais qui ont essayé, par exemple, d'honorer Dieu avec la dîme, et ils ont dit, OK, je vais donner la dîme, mais d'abord, je vais payer les factures, je vais faire l'épicerie, et puis, s'il y en reste, je vais donner la dîme. Ça ne marche jamais. Jamais, parce que je ne sais pas comment, mais il y a toujours un moyen que tout disparaisse. Il y a des imprévus, des choses qu'on ne s'attendait pas, que ça brise et on n'arrive jamais. Mais une personne qui dit, OK, première chose, quand je reçois quoi que ce soit, avant de payer les factures, avant de faire l'épicerie, première chose que je fais, je remets à Dieu le premier 10% qui lui appartient. Parce que la dîme appartient à l'Éternel. Amen. C'est pas à moi, c'est à lui. Et si je le fais première chose, je ne sais pas comment, mais je n'ai pas dit que vous n'aurez jamais de défis, mais je ne sais pas comment, mais ça marche. Ça marche. On a assez pour l'épicerie. Même si on n'a pas assez avec notre chèque, le Seigneur ouvre les autres portes, les autres écluses des cieux, et il y a d'autres personnes qui arrivent avec une épicerie. Je m'en souviens une fois, Tania et moi, on avait 6 pièces pour toute la semaine. 6 pièces, ce n'est pas beaucoup. Et on avait besoin de donner la dîme. Et on a dit, pas juste la dîme, on donne tout, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose avec 6 pièces quand même. On a tout donné, les 6 $. Mais gloire à Dieu, ma tante ne savait pas, mais ma tante est arrivée à la maison avec un poulet rôti. Vois-tu? Ça m'aurait coûté, ça. Et d'autres personnes arrivent, ils mettent du gaz dans le réservoir. Et ça marche quand on met Dieu en premier. Amen? Alléluia. On a déjà lu Malachie 3. On n'a pas besoin de le relire.
Donc, mettez Dieu en première place dans vos finances. C'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit, vous redonnez à Dieu qu'est-ce qui lui appartient et vous lui faites confiance d'ouvrir les écluses des cieux et de répandre une bénédiction que vous ne pouvez pas continuer. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est développer une bonne attitude envers le travail. Une bonne attitude envers le travail. Combien de vous aimez travailler? Il y a des gens qui n'aiment pas travailler et parce qu'ils n'aiment pas le travail spécifique qu'ils font. Ça, c'est compréhensible des fois. Mais en principe, un homme et une femme devraient aimer son travail. Amen? Nous sommes créés pour travailler et c'est une bonne chose de travailler. Et trop souvent, des personnes ne sont pas bénies financièrement parce qu'ils ont une mauvaise attitude envers le travail. Ils se plaignent toujours. Ils vont placoter à propos de leur contremaître ou le patron. Ils vont dire toutes sortes de choses, combien c'est négatif chez eux. Et au lieu d'être reconnaissants pour le travail qu'ils ont, ils ont une mauvaise attitude. Et laisse-moi vous dire, c'est pas comme ça que vous serez bénis. Il faut avoir une bonne attitude. Dire, bon, merci Seigneur que j'ai la force nécessaire pour aller travailler. Amen. Et j'ai le pouvoir et j'ai le privilège d'aller travailler. Et c'est une bonne chose. Mais on peut aller plus loin que ça, même concernant l'attitude du travail. En Éphésiens, chapitre 4, verset 28. « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Donc, dans ce verset, nous voyons l'attitude que nous, les économes de Dieu, tout le monde dit « Je suis économe de Dieu », c'est-à-dire que tout ce que tu es et tout ce que tu as, lui appartient. En tant qu'économe de Dieu, mon temps, mes talents, mon trésor et mon temple lui appartient. Mais en tant qu'économe de Dieu, mon attitude envers le travail devrait être que quand je vais travailler, ce n'est pas juste pour gagner mon pain, mais c'est pour gagner une semence. Amen? C'est-à-dire que je vais travailler pas juste parce que j'ai besoin de nourrir ma famille. Pas juste parce que j'ai besoin de payer mes factures ou pas juste parce que j'ai besoin d'acheter un gros bateau. Hein? Peu importe votre motivation, il y a quelques personnes qui travaillent juste pour pouvoir leurs besoins. Il y a d'autres personnes qui travaillent parce qu'ils ont des rêves et des visions de gâteries. Et il y a rien, Dieu n'a rien contre les gâteries non plus si tu cherches d'abord son royaume. C'est bien correct si tu veux avoir un gros bateau, si c'est la volonté de Dieu, bien correct. Tu peux utiliser ton bateau pour témoigner à tous ceux qui sont sur la plage, hein? Pourquoi pas? Mais ça dépend de la motivation de ton cœur. Est-ce que tu aimes l'argent? Est-ce que tu aimes le bateau plus que tu aimes Dieu? Si c'est le cas, il y a un grand problème. Mais si tu aimes vraiment Jésus et tu veux vraiment faire la volonté de Dieu, et quand tu procures le bateau, tu te rends compte que le bateau ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Et si Dieu me demande de le donner à quelqu'un d'autre, je vais le faire. Je suis libre de mes biens. J'ai les biens, mais les biens ne m'ont pas. Amen. C'est ça la différence. Mais c'est ça. Donc, quand tu vas travailler, une personne qui ne vit pas une petite vie égoïste, il va vouloir avoir une augmentation de salaire, il va vouloir le meilleur poste, il va vouloir avoir vraiment tous les bienfaits qui vont de pair avec sa job. Pourquoi? Parce qu'il sait que j'en ai besoin pour que je puisse donner à ceux qui sont dans le besoin. C'est ça que ce verset dit, qu'il travaille avec ses mains en faisant ce qui est bien afin qu'il puisse avoir de quoi donner. Amen? Pas juste de quoi manger, mais de quoi donner. Est-ce que vous voyez le plan de Dieu pour les finances? C'est un bon plan, n'est-ce pas? Dieu veut que nous soyons comblés dans l'abondance, avoir de quoi satisfaire mes besoins, mais avoir de quoi donner. Et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dieu cherche votre bonheur. Et dès que votre intelligence est renouvelée, vous n'aurez jamais plus de la misère à écouter un message sur les finances. Amen. Vous allez dire, « Ouh, gloire à Dieu, on va parler des finances, on va voir encore une occasion pour moi d'être béni, parce que je vais être béni et je vais avoir encore plus de capacité pour bénir les autres. » Ça, c'est l'attitude qu'on devrait avoir. Je gagne pas juste mon pain, mais je gagne ma semence. Amen. Et c'est le fun. Et c'est vraiment le fun de donner aussi. N'est-ce pas? Vous qui ont donné, vous savez, même donnant les cadeaux aux enfants, il y a de la joie. Mes enfants, c'est pourquoi on voulait le faire pour nos enfants. Chaque un de nos enfants a préparé une boîte pour un autre enfant. Et ça fait quelque chose dans le cœur. C'est comme ils avaient hâte, ils voulaient écrire une note, ils voulaient mettre leur photo dedans. Ça fait de la joie de donner. Donc, donner à Dieu la première place dans vos finances, développer une bonne attitude envers le travail. Et numéro 3, utiliser la sagesse dans la gestion de vos finances. Parce que même si vous êtes fidèle dans les dîmes et les offrandes, cela ne va pas assurer que vous aurez du succès dans les finances. Il faut avoir une bonne attitude au niveau du travail et il faut travailler aussi. Et j'ai oublié de le dire, mais il y a plein de versets qui disent que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables de travailler. Ça, c'est notre histoire. Une personne qui cherche à travailler, mais qui ne trouve pas d'emploi, une personne qui est dans l'incapacité physiquement ou mentalement de travailler, ça, c'est notre histoire. Mais la Bible est claire que si vous êtes capable de travailler et vous avez l'occasion de travailler, vous devriez travailler. Amen. Pas juste s'asseoir en disant, mais merci Seigneur, le Seigneur pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Oh, je réclame toutes les promesses. Oh, merci que tu vas pouvoir tous mes besoins. Oui, il va te pouvoir tes besoins. Il va pouvoir une occasion pour toi d'aller travailler. Amen. Et quand tu travailles, tu vas être béni. Donc, troisième chose, utiliser la sagesse dans la gestion de vos finances. Comment est-ce qu'on va le faire? Simple, bien logique même. Trois choses qu'on a besoin de faire. Numéro 1, lettre A dans vos notes. Établissez et respectez un budget. Ça, c'est quoi un budget? C'est tout simplement, vous allez écrire qu'est-ce que vous recevez à chaque mois ou à chaque semaine, et vous allez écrire qu'est-ce que vous avez besoin de dépenser. Et une chose bien logique, si vous dépensez plus que vous gagnez, vous allez vous endetter. Amen? Donc, si vous n'êtes pas capable de vivre comme ça, il y a deux possibilités. Soit vous augmentez votre revenu, ou vous allez diminuer vos dépenses. Amen? Et on ne peut pas vivre comme Bill Gates si on a le salaire de quelqu'un qui travaille chez McDonald's. Hein? On ne peut pas. C'est impossible. Et c'est bien beau de dire, hey, mais nous sommes prospères, nous sommes les enfants de Dieu. Oui, nous sommes prospères, nous sommes les enfants de Dieu, mais il faut utiliser la sagesse aussi. Amen? Et si vous travaillez et vous avez tant de dollars par heure, vivez avec tant de dollars avec le même rythme. Okay? Il ne faut pas dépenser plus que vous recevez. Des fois, je comprends, il faut vraiment croire que pour avoir une augmentation, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez et ils ont besoin de plus. Mais même là, avant de demander une augmentation, vérifiez le fond de votre sac. Et être sûr et certain que ce n'est pas troué. Amen? Parce que ça ne donne rien d'avoir un meilleur job, meilleur salaire, et de mettre ça dans un sac troué. Mettez Dieu en premier, réparez le sac d'abord, et puis tu peux avancer. Établissez et respectez un budget à quelques versets que vous pouvez regarder à la maison. Soyez prudent dans vos dépenses. Amen? Vous ne pouvez pas avoir tout ce que vous voulez. Moi, j'aimerais avoir beaucoup de choses. Et merci Seigneur, on a beaucoup de choses. Le Seigneur est bon. Laisse-moi vous dire, si vous habitez au Québec en 2002, vous avez beaucoup de choses. Amen. Par rapport à ce que les gens dans le tiers monde ont pour vivre, nous sommes tous bénis. On ne peut pas se plaindre, n'est-ce pas? Et vraiment, on est bénis. Mais quand même, on ne veut pas juste viser juste assez, on veut viser plus qu'assez. Mais soyez prudents dans vos dépenses. Et lettre C, cherchez sans cesse les occasions de semer. Et on va lire ce verset en 2 Corinthiens 9, 6. Je l'ai cité plusieurs fois aujourd'hui. On va finir en lisant deux passages. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Vois-tu, il y a une loi spirituelle que ce qu'on sème, on va récolter. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, tout le monde dit en toutes choses, quand toujours et en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Ça, c'est la volonté de Dieu pour vous et pour moi concernant nos finances. Toujours, tout le monde dit toujours. Amen. Toujours de quoi satisfaire à tous nos besoins avec une abondance. Ça, c'est son plan. Mais comment est-ce qu'on peut avoir cette abondance? À chaque fois que nous recevons quoi que ce soit, il faut se poser la question, est-ce que c'est du pain pour manger ou est-ce que c'est une semence pour semer? Le problème, c'est que si tu manges tout ce que Dieu met entre vos mains, vous venez de manger votre semence. Vous n'avez rien à donner. Et si vous n'avez rien à donner, vous n'allez pas recevoir encore en retour. Amen? Donc, ça, c'est la question. En fait, une personne qui est sage, il va manger le strict minime, n'est-ce pas? Et il va semer le plus que possible. Parce que plus il semme, plus il va récolter. Amen? Mais d'habitude, c'est le contraire. On va dire, OK, je vais manger autant que je peux. Et combien est-ce que Dieu a dit qu'il faut que je lui remette? OK, bien, je vais juste donner ça à lui et le restant, je vais manger. Là, c'est correct, vous pouvez le faire comme ça. Mais c'est beaucoup plus sage de dire, OK, j'ai tant devant moi, je vais manger le minimum que possible juste pour rencontrer mes besoins, d'avoir quand même une vie confortable, mais je vais donner à Dieu qu'est-ce qui lui appartient déjà, le 10%, et en plus, je vais trouver autant que possible pour semer. Parce que plus je sème, plus je vais recevoir. Amen? Et c'est le fun de vivre comme ça. C'est vraiment le fun de vivre comme ça, parce que là, on voit qu'on vit pour lui et pas pour nous-mêmes. Il y a, dans la parole vivante, versets 10 et 11 de ce même passage, dit, « Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, saura aussi vous donner les moyens de semer généreusement. » Tout le monde dit généreusement. Amen. Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que celui qui donne le pain, celui qui donne la semence, que lui, il saura aussi vous donner les moyens. Vous dites, oh, je n'ai pas les moyens. Dieu sait vous donner les moyens. Amen. Pour semer généreusement, c'est lui qui fera croître cette semence, qui la fera prospérer et porter des fruits, qui pourra agréer. Ainsi, vous serez vraiment riche de tous les biens spirituels et matériel, et vous pourrez contribuer largement à faire le bien chaque fois que l'occasion s'en présentera. Et ceux auxquels nous distribuerons vos libéralités feront monter vers Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Amen. Que c'est merveilleux, que c'est beau de voir la volonté de Dieu pour nos finances. Il veut que nous recevions de sa main, il veut qu'on somme d'en bas, et c'est un cycle qui va continuer à augmenter comme une boule de neige. Plus on sème, plus on va récolter. Plus on donne, plus on est dans la joie. Amen. Ceux qui vivent pour eux-mêmes une petite vie égoïste, ils vont être déçus. Mais ceux qui donnent leur vie, leur temps, leur talent et leur trésor, et la semaine prochaine, on va parler de notre temple, notre corps physique. Ceux qui vivent pour Jésus avec ses 4 T, sont les gens qui ont trouvé du sens dans ce monde insensé et ce sont les gens qui sont heureux dans la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse et on va prier. Si Tania veut venir, on va prier pour fermer aujourd'hui. C'est les choses importantes qu'on avait besoin de partager. Alléluia. Combien de vous êtes contents de savoir que Dieu veut que vous soyez prospères? Amen. C'est une bonne nouvelle. C'est un message extrêmement encourageant. Pas trop religieux. Les personnes religieuses vont dire que non, il faut rester pauvre. Il faut souffrir. Plus tu es pauvre, plus tu es saint. Mais ce n'est pas ça qu'on voit dans la parole de Dieu. On voit que plus on s'approche de Dieu et plus on est obéissant, plus il va nous donner de quoi aider les autres. Merci Père Céleste, au nom de Jésus. Avec tous les yeux fermés, ce matin, j'aimerais faire comme je fais à tous les dimanches matins, donner l'occasion à ceux qui sont ici présents de prendre une décision de donner leur vie à Jésus. Père Céleste, tu nous as révélé aujourd'hui que tu t'intéresses surtout à notre cœur. ce que nous faisons avec notre trésor pour révéler l'état de notre cœur. C'est une chose, ce n'est pas la seule chose. Mais Seigneur, je prie pour chaque personne ici présente. Je prie, Seigneur, que s'il y a une personne qui ne te connaît pas personnellement, intimement, qui ne quitte pas cette salle sans avoir pris une décision de te servir, de vivre pour toi au lieu de vivre pour eux-mêmes. La vraie vie se trouve en toi, Jésus. La vraie joie, notre raison d'être se trouve uniquement en toi. Donc, Père Céleste, je prie, Seigneur, que s'il y a une personne, que tu ouvres les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent te recevoir. Donc, avec tous les yeux fermés, je veux juste demander, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, « Pasteur, je veux que tu pries pour moi. Je veux prendre une décision de confier ma vie à Jésus. » La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Et je demande s'il y a quelqu'un ici ce matin, il n'y a personne qui regarde autour d'eux, c'est entre toi, le Seigneur et moi. Je ne vais pas t'embarrasser. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui lèverait la main en disant, « Je veux que tu pries pour moi, je veux donner ma vie à Jésus ce matin. » Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je veux prendre cette occasion. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ne sois pas gêné. Sinon, j'ai à cœur, on va peut-être chanter tantôt, faire juste un chant pour fermer la réunion, mais avant de faire le chant pour fermer la réunion, j'aimerais t'inviter à réfléchir une minute sur les choses qu'on est en train de voir dans la parole. Le fait que nous sommes les économes, examine ton cœur au niveau de ton temps, tes talents et même ton trésor. Est-ce que Dieu, quand il voit la façon que tu agis avec tes finances, est-ce qu'il voit que ton cœur est attaché à lui plus qu'aux choses de ce monde? Est-ce qu'il voit que tu es digne de confiance? Est-ce qu'il serait capable de te confier des véritables richesses? Et est-ce que tu es en train de bâtir son royaume avec ton trésor? C'est ça que Dieu veut de chacun de nous. Et il a promis de pourvoir tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Prie avec moi, Père Céleste. Me voici. Mon cœur t'appartient. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, t'appartient. Mon temps, mes talents, mon trésor et mon temple. Aide-moi, Seigneur, à vivre pour toi. Je ne veux plus vivre une petite vie égoïste. Mais je veux vivre pour toi une vie abondante qui va faire un grand impact dans mon entourage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur ce matin? Alléluia. Donc moi, je vais prendre cette occasion de vous encourager encore.